Africa. Tout feu tout foot, l'émission 100% foot présentée par Lamine Badiane sur Africa Radio. Africa.
Salut à tous, salut tout feu tout foot sur la radio africaine bien sûr, la dernière sur Africa Radio, la dernière de la saison, faut bien le préciser. Et donc une émission dédiée à notre correspondant Patrick Lupica qui nous a quitté ce samedi au Canada. Patrick, si tu nous entends, cette émission est pour toi. Nous parlerons de la CAN féminine, des transferts de la CAN reportés aussi. Nous parlerons aussi de la libre antenne pour cette émission. Doyen, bonsoir.
Bonsoir coach, bonsoir tout le monde. Toujours au poste. Prêt pour les vacances.
Bonsoir Hakim.
Bonsoir coach Lamine Badiane. Bonsoir à Christian Chango. Bonsoir à Willy Dorkenou.
Bonsoir.
Bonsoir à Hélène Biziot à la réalisation. Et bonsoir aussi surtout à tous les auditeurs qui nous écoutent sur Africa Radio depuis partout dans le monde.
Ah ouais, on leur demandera d'ailleurs de venir à l'antenne, hein, 0155 07 58 00, la dernière de la saison, pour nous donner leur impression, nous dire ce qu'ils ont pensé de cette émission sur l'année. Et voir un peu comment ils veulent aborder l'année prochaine. Messieurs, avant de commencer, donc Patrick Lupica, un hommage, Christian Chango. Mais bien sûr, avant, on va écouter notre jungle fétiche.
Plein feu sur les championnats africains sur Africa.
Malheureusement, voilà, un malheur nous est arrivé. Patrick Lupica ne verra pas ton but, hein, quelque chose à marquer. Qui était Patrick Lupica ?
Patrick Lupica, Kamozi, que je salue et qu'on salue tous. Et on pense bien évidemment à sa famille et à tous ses proches, à tous ceux qui l'ont côtoyé et qui ont pu bosser avec lui. Donc notre confrère, ancien journaliste sportif, hein, notamment du côté de Digital Congo. En RDC, donc il était passé par Kyondo Télévision à Lubumbashi avant de voler vers Digital Congo du côté de Kinshasa, de nous rejoindre aussi en tant que correspondant pour Tout Feu Tout Foot, et puis après pour prendre son envol et prendre la succession d'un de nos confrères aussi qu'on a eu, Charles Mbouya et Abou Bakibra aussi également, du côté de
Canal Plus
Afrique. Donc il était unanimement salué, reconnu. Malheureusement, on a appris la triste nouvelle, comme tout le monde, de sa disparition. Donc jeune journaliste, hein, Patrick, 28 ans. Et voilà, triste nouvelle qu'on a appris, beaucoup d'hommages, dont nous, celui qu'on lui rend ce soir. Et on avait l'habitude, quand on l'avait au téléphone sur le plateau, on aimait bien le taquiner aussi, il aimait bien nous taquiner. Toi aussi, il aimait bien te taquiner sur le Sénégal. Et malheureusement, on n'aura pas vu la RD Congo gagner la CAN. Il a couvert plusieurs chaînes, donc voilà.
Alors Hakim, vous l'avez fait venir sur notre émission de Tout Feu Tout Foot.
Oui.
Comment ça s'est passé ? Est-ce que vous avez quelque chose ?
Oui, l'anecdote, coach Lamine Badiane, et d'ailleurs je tiens à lui rendre hommage, Patrick Lupica, toutes mes condoléances pour lui et toute sa famille. Beaucoup de courage pour lui et tous ses proches et tous ceux qui l'ont côtoyé de près ou de loin. Patrick, c'était un homme tout simplement en or. Patrick était connu pour son sourire, pour son professionnalisme. Il m'avait écouté en fait sur des commentaires de Coupe d'Afrique des Nations et de Coupe du Monde, dans lesquels il m'avait envoyé quelques messages de correspondance pour me saluer et notamment aussi saluer le travail que l'on faisait aux commentaires sportifs pour le continent africain. Pour la couverture des grands événements comme la Coupe d'Afrique des Nations, la Ligue des Champions, le tout puissant On a commenté le tout-puissant Mazembe, le Vita Club, le FC Renaissance. Et à travers ça, donc on a gardé un contact. Il m'a envoyé un mail et je lui ai répondu à quelques questions, quelques interrogations qu'il avait sur tel ou tel joueur ou telle sélection africaine. On a gardé le contact. L'amitié s'est nouée avec Patrick très très vite parce que c'est vraiment quelqu'un de formidable qui est d'une générosité, d'une simplicité. Patrick, c'était l'homme sage, c'était le journaliste très professionnel qui allait vérifier ses sources avant de les lâcher effectivement dans les rédactions où il travaillait. Et ensuite, un soir, donc je l'appelle, je lui propose de se joindre à moi, à Woody Dorkenou, à Christian Chango et à toi, coach Lamine, en lui proposant en fait de participer à l'émission sport d'Africa Radio, Tout Feu Tout Foot. Et il me répond que oui. Je lui dis voilà, on avait quelques petites questions sur la performance du tout-puissant Mazembe sur la Ligue des Champions africaine et le Vita Club, le FC Renaissance aussi, qu'il connaissait très très bien. Et là, il nous fait une petite analyse, une petite chronique en quelques secondes et tout de suite, on remarque avec Christian Chango, avec Woody, avec toi, coach Lamine, sa voix et sa distinction de par son analyse qui est très précise et aussi avec une particulière, un timbre de voix que l'on aime écouter. Parce que c'était un timbre de voix aussi, Patrick Dupica, et une analyse fraîche et vraiment une bonne analyse sportive sur le football africain. Et petit à petit, donc, l'émission suivante, on le réinvite, ça se passe bien, il prend ses ailes. Effectivement, à journaliste correspondant à part entière pour l'émission Tout Feu Tout Foot pendant des années.
Il a fini, on l'a vu, avec Canal Plus. Doyen, vous l'avez connu aussi, puisque nous avons pu travailler ensemble pendant longtemps au niveau de ce football de quinoa, qu'on peut dire exactement. Ouais. Alors donc, un avis, c'est une grosse perte quand même.
Oui, une grosse perte parce que au début, c'était un correspondant. Vers la fin, il est devenu un frère, un petit frère. Donc déjà le 6 juin, il n'y a même pas à peine une semaine, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, parce qu'il y avait un surnom que je lui disais, Mwanakitoko, ça veut dire le beau gosse. Donc après, il m'a répondu dans la langue, en lingala, merci doyen, mingi, mingi, mingi. Donc je n'ai même pas eu le temps de lui demander ce que c'est, il est parti.
Il est parti.
Donc on a perdu un frère, un correspondant.
Alors on a quand même quelqu'un qui, depuis le Congo, souvenez-vous qu'il a remplacé, qui était avec lui, puisqu'on Marco Momo, avec lequel il a pu travailler aussi. Quand on ne pouvait pas avoir, bien sûr, Patrick Lupica, on se penchait sur Marco Momo. Marco, Marco, bonsoir.
Bonsoir coach et bonsoir à toute l'équipe.
Bonsoir. Bonsoir Marco Momo.
Je vous ai suivi. C'est très émouvant tout ce que vous avez dit sur Patrick. C'est un frère. Il a été hors du commun. Il était sans égal dans tout ce qu'il faisait, dans tous les travaux abattus pour la presse sportive en RDC. Vraiment, je ne trouve pas des mots pour les qualifier. Je ne trouve pas des mots pour qualifier ce qui était Patrick Lupica. Je l'ai croisé, Christian a dressé pratiquement tout son parcours. Je l'ai croisé quelques mois avant son départ pour Digital Congo, quand il a quitté Kyondo. Je l'ai croisé dans les locaux de Kyondo Télévision à Lubumbashi. Ce jour-là, nous avons discuté avec lui. Nous avons discuté sur beaucoup de projets, notamment avant même la création de Foot RDC. Nous avons discuté, je lui ai fait voir tout ce qui m'est trotté dans ma tête, toutes les idées qui trottaient dans ma tête. Patrick me dira, il faut foncer, il faut essayer, il ne faut pas désespérer. Ce n'est pas parce que nos vieux, comme on aime bien appeler nos prédécesseurs, n'ont pas su faire quelque chose que nous aussi nous serons bornés. Il faut tenter, il faut déranger l'avenir avec de bonnes idées. Il est parti à Kinshasa. On a gardé contact. Je me rappelle, 3 mois après la création de ce média qui m'emploie aujourd'hui, Foot RDC, j'ai été avec Patrick un jour au stade TP Mazembe. Nous avons longuement discuté sur la ligne éditoriale. Il nous a aidé avec de très bons conseils. Il nous a mis sur des très bonnes pistes également, puisque c'était un média qui est né dans une forêt. C'était comme une fleur rose dans une forêt. Mmh. Il fallait prendre soin de ces médias et Patrick y a été pour beaucoup de choses. On a discuté longuement avec lui avant le match, à la mi-temps, et après le match, on a pris un rendez-vous. On a également discuté avec Patrick.
Okay.
C'est quelqu'un qui a été d'un grand apport également sur le plan personnel de ma carrière. Mmh. Je me rappelle quand il est parti à Canal Plus Afrique, en train de faire la correspondance, à qui il va me contacter. Et c'est Patrick. Et je me suis intéressé, j'ai pris contact avec Patrick pour lui dire, voilà mon frère, il y a ça et ça, Hakim vient de me contacter, je dois vous remplacer. C'est encore lui qui me dira, oui mon frère, vas-y, fonce.
Voilà.
Pour ne pas laisser cette chance-là, vas-y, tiens-la. Et c'est comme ça que j'ai commencé avec Africa Radio et Tout Fait Tout Foot. Patrick était là. Et quand certaines portes... était fermé. Il a joué pratiquement la clé pour ouvrir cette serrure-là pour moi.
Okay.
C'était pas aussi facile de tomber sur certains dirigeants. Grâce à son carnet d'adresses et grâce également à son influence, Patrick m'a permis d'entrer dans certains salons, de côtoyer certains dirigeants, d'avoir certains secrets qui m'ont également permis de me faire un petit nom et également qui ont permis à ce que Foot RDC soit un média de référence.
Okay.
Je vais vous raconter beaucoup de choses, certaines informations, certaines actualités exclusives relayées par Foot RDC. Patrick était ce pont-là. Et même quand il est parti au Canada, il a cessé de nous filer certaines informations exclusives. Avant qu'il ne parte au Canada, il a discuté longuement à Kinshasa avec les rédacteurs en chef de Foot RDC. Mmh. Ils ont discuté sur le projet Foot RDC. Patrick a essayé encore de donner certaines orientations. Patrick était là, il nous a ouvert à certaines portes jusqu'à ce qu'on a décroché certaines interviews exclusives. Mmh. Il était là.
Merci.
Il était là.
Merci,
il a contribué dans ce projet et je n'ai pas perdu un confrère, j'ai perdu un frère.
Oui, Marco, on sent...
Moi, je dirais
Marco,
que j'ai perdu un père.
Marco, on sent vraiment beaucoup d'émotions par rapport à votre témoignage. En tout cas, ce qu'on peut dire un peu à toute l'équipe et à tous ceux qui l'ont connu... continuons à prier pour lui et qu'il nous réserve aussi une place au paradis par rapport à nous. Il y a aussi quelqu'un rapidement, c'est terrible.
Ouais, il y a quelqu'un qui est avec nous aussi par téléphone, on va essayer de le joindre. Christian, je me souviens de Patrick Lupica et toute sa... finesse. Il y a Dipita qui est avec nous depuis le Cameroun.
Dipita,
comment ça va Dipita?
Est-ce que tu nous entends,
Allô, Dipita?
Il ne nous entend pas. C'est pas grave.
La liaison va être.
Bon, on va réécouter. On va de toute façon continuer à faire l'émission. Encore une fois, cette émission, c'est pour toi.
Patrick, ouais.
Patrick Lupica, c'est pour toi. Messieurs, en tout cas, on va parler de la CAN féminine.
Ouais.
Hein, Christian Chango, une CAN féminine qui est née. Une phase en phase de la Coupe d'Afrique des Nations 2002 qui s'est achevée ce 10 juillet avec une victoire 4-0 du Nigeria sur le Burundi et un succès 1-0 de l'Afrique du Sud face au Botswana. Les affiches des quarts de finale, parce que nous sommes maintenant au quart de finale, seront Maroc-Botswana, Zambie-Sénégal, Afrique du Sud-Tunisie, Cameroun-Nigeria. Et les vainqueurs de ces quatre confrontations seront automatiquement qualifiés pour la prochaine Coupe du Monde.
Exactement, coach, hein, c'est ça. Hein, donc, du côté de l'Afrique, donc c'est la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule. On le voit du côté de l'Europe aussi. Il y a l'Euro féminin qui a débuté. Donc, ce mois d'été est placé sous le signe du football féminin.
Elle ne bouline pas, hein, en tout cas.
Non, effectivement. Mais elle joue pas mal. Et il faut les féliciter. Et puis, surtout, là, donc, tu l'as dit, coach, hein, pour les affiches des quarts de finale. Donc, Zambie face au Sénégal. Ça, c'est mercredi. Le Maroc face au Botswana, ça enchaînera pareil le mercredi soir. Et après, grosse affiche entre le Cameroun et le Nigeria, deux des favoris de la compétition qui...
Ils se sont souvent rencontrés,
c'est
d'ailleurs.
Ça, exactement. Ouais. C'est deux des... Et la dernière affiche, Afrique du Sud face à la Tunisie. Le Cameroun et le Nigeria, c'est vrai que ces dernières années, ça fait partie des équipes moteurs qui font avancer aussi le foot féminin. On voit beaucoup de joueuses, notamment nigériennes, du Nigeria et du Cameroun, évoluer dans les plus grands clubs ici du côté de l'Europe, à Barcelone, notamment aussi en Suède, où le foot féminin est très développé.
Tout à fait.
Donc, sur cette première partie, sur ce premier tour, sur cette phase de groupe, ce qu'on peut dire, c'est, pour l'avoir regardé quand même de manière un peu assidue, comparé, on voit l'évolution, on voit la progression, et de toutes les nations. Avec les moteurs comme le Cameroun ou le Nigeria.
Oui, c'est vrai que de temps en temps, on voit des joueuses professionnelles qui viennent du continent et qui sont dans des équipes, intégrées dans des équipes.
Ouais.
Mais cela dit, il faudrait reconnaître quand même, le niveau n'est pas pareil. Moi, j'ai reconnu l'équipe de France hier. J'ai l'impression qu'elle peut battre le sapeur-pompier de Mantes-la-Jolie.
Oui, mais ce que vous dites là, il n'y a pas de comparaison à avoir. Et dans les années 20, il y a des pays comme l'Angleterre avec des équipes féminines. Et moi, quand j'ai quitté l'Afrique dans les années 80, il n'y a même pas le football féminin. Donc, il faut dire aussi bravo à nos filles qui apprennent très vite. Parce qu'à un moment donné, moi, je quittais l'Afrique, il n'y a pas de football féminin. Et il y a des Africaines qui sont à Barcelone. Et ils sont aux États-Unis dans des grands clubs. Donc, ayons un peu de patience par rapport à nos filles. Mais ce que moi, je trouve, c'est qu'elles apprennent très vite.
Ça, oui, ça, c'est vrai. Ça, par contre, ça, c'est un aspect qu'on peut pas leur enlever. Là, il y avait quelques jours avant le début de l'Euro féminin et le début de la Coupe d'Afrique des Nations féminines, on a vu, tu parles de l'équipe de France, on a vu le match entre la France et le Cameroun, si je ne me trompe pas.
Ouais.
Il y a quand même 4-0 pour l'équipe de France. Mais c'est Willy qui le dit souvent, ça. Ce match-là, il aurait eu lieu il y a 10 ans. Il y aurait peut-être eu 10, 11, 12, 13. Donc, il y a une progression dans le niveau global du foot féminin. Après, bien entendu, de par les championnats qui ne sont pas structurés, il y a quand même encore beaucoup de choses à faire. On avait vu passer il y a quelques semaines l'équipe de foot féminine de la RD Congo qui s'entraînait dans des conditions déplorables. Donc il y a encore du boulot à faire, mais en tout cas, sur cette CAN, là, dans les 8 équipes qui sont présentes, ça se joue et puis il y a une place à la Coupe du Monde à aller chercher.
Exactement. Alors, on a Adama Sourabi. Adama, bonsoir.
Bonsoir, coach Lamine, bonsoir à tous.
Bonsoir, Adama. On va pas revenir sur la disparition de Patrick Lupica. Hein, parce
que vous
là,
êtes touché, Adama.
Ça nous fait un peu mal, mais bon.
Coach Lamine, j'ai juste.
Juste un mot,
Je suis là, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que je voulais lui rendre un hommage, vraiment. Et je me rappelle aussi que je n'ai pas été aussi long que Momo. Et quand même, il y a des moments où on s'est taquiné. Quand moi j'ai fait la correspondance depuis Barcelone, lui, il le faisait depuis la République démocratique du Congo. Tout ce que je souhaite à ce monsieur, que Dieu ait son âme, qu'il repose en paix et que toutes les œuvres qu'il a mises en place avec ses idées d'amener cette presse africaine du côté du sport a grandi. De l'autre côté du monde qui continue à prier pour cette nouvelle génération et ceux aussi comme nous qui sommes là. Alors, je tenais à participer à cette émission et lui rendre un vif hommage.
Oui, Adama. Merci beaucoup, Adama. Alors, on est en Coupe d'Afrique des Nations d'âme et on ne voit pas le Burkina Faso. Comment ça se fait? Je cherche par rapport.
Elles ont joué contre le Sénégal en plus.
Le Burkina Faso déjà n'a pas été ridicule lors de cette Coupe d'Afrique, vous saviez. Si vous avez suivi le match d'ouverture contre le Maroc, quand même, on a vu le Burkina Faso qui a participé à cette Coupe d'Afrique. Quand on dit une Coupe d'Afrique, c'est une compétition qui est relevée. Donc aujourd'hui, les pays qui sont qualifiés, qui arrivent à cette étape de cette compétition, ça veut dire qu'il y a un travail organisationnel qui est fait au niveau de ces pays depuis plusieurs années.
Ouais.
Quand on regarde, c'est toujours presque les mêmes nations qu'on retrouve dans les différentes compétitions internationales. Donc, Coach Lamine, ne vous pressez pas, le Burkina Faso.
Ouais, d'habitude, les Burkinabés. Voilà. Comment on dit les Burkinabés?
Burkinabés.
Les Burkinabés ni de Maxime. Donc, n'allez pas me chercher, Coach Lamine.
Non, non, mais c'est Christian Chango qui dit d'habitude les Burkinabés. Donc, c'est pas ça, c'est les Burkinabés.
Il n'a jamais dit
ça. Et donc, finalement, elles sont plutôt vélo qu'autre chose, là.
Oui, mais non. Quand tu vois dans quelles conditions elles sont préparées pour ne perdre que de un but d'écart face au Maroc qui est en quart de finale, donc bravo.
Oui, mais le Maroc aussi, d'après ce que j'entends, c'est que beaucoup d'adversaires, ils font comme le Cameroun, quoi. Beaucoup d'adversaires ont le Covid, quoi. Ouais.
Ouais, mais va penser à des choses qui n'existent pas.
Et contre Lamine Doyen-Willy, quand on sait les conditions où les étalons filles de Burkina Faso se sont préparés,
oui,
et les questions de prime de match, je pense que tout ça éloigne la sérénité dans un groupe.
Ouais.
Voilà, c'est des sujets auxquels j'ai pas envie de toucher ce soir parce que c'est une grande émission, le match de Patrick, donc on va pas y revenir. Mais je trouve que les filles ont fait un bon parcours. Voilà,
ouais.
Bravo.
Alors, est-ce qu'on peut avoir les résultats, Christian Chango?
Bien sûr, on va donner les résultats de jeu. Allez, on va donner donc groupe par groupe. Donc déjà sur la première journée, donc le match d'ouverture, le Maroc a battu le Burkina Faso, désolé Adama, 1-0. Le Sénégal a battu l'Ouganda, 2-0. Match nul entre le Cameroun et la Zambie, 0-0. La Tunisie a battu le Togo, désolé Willy, 4-1.
Ouais, mais ça,
le Burundi a perdu face au Botswana, 4-2. Et la surprise de la première journée, le Nigeria qui a perdu face à l'Afrique du Sud, 2-1. Mmh. Et puis après, donc les autres, il y a eu 3 rencontres, hein, 3 journées, puisque c'est des groupes de 4,
ouais,
on rappelle. Donc le Faso a perdu face au Sénégal, 1-0. L'Ouganda a perdu face au Maroc, 3-1. La Zambie a battu la Tunisie, 1-0. Un but partout entre le Togo et le Cameroun. L'Afrique du Sud a battu le Burundi, 3-1. Et le Nigeria a battu le Botswana, 2-0. Pour la dernière journée, le Maroc a battu le Sénégal, 1-0. Le Faso a battu l'Ouganda, a fait 2 buts partout, pardon, face à l'Ouganda. Le Cameroun a battu la Tunisie, 2-0. La Zambie en a mis 4 au Togo, 4-1. L'Afrique du Sud a battu le Botswana, 1-0. Et le Nigeria, pour finir en beauté, a battu le Burundi, 4-0. Donc on le rappelle, hein, mercredi 19h, Zambie face au Sénégal. Mercredi 22h, le Maroc face au Botswana. Le jeudi 19h, Cameroun-Nigeria. Et à 22h, Afrique du Sud face à la Tunisie. Voilà pour les affiches et résultats complets de cette Coupe d'Afrique des Nations féminines qu'on rappelle se déroule du côté du Maroc.
Alors globalement, Hakim,
oui,
comment on peut considérer justement ce football féminin en Afrique? Parce que bon, déjà, ne serait-ce que quand on doit analyser ces différentes équipes, on se rend compte que sur les équipes qui participent à la Coupe d'Afrique des Nations, déjà la majorité des entraîneurs, ce sont des entraîneurs masculins. Est-ce qu'on ne devrait pas aussi laisser
féminiser,
la responsabilité à des féminines,
tout à fait. Je pense que vous
soulignez. Ouais, je vais venir vers vous.
Ouais, je pense que vous soulignez un point important, Coach Lamine Badiane. La féminisation, effectivement, des sélectionneurs, en tout cas, elle doit arriver donc sur le plan des sélections africaines féminines. C'est pas encore le cas. Il y a effectivement des dirigeantes, il y a des préparatrices physiques, si on peut appeler ça comme ça, mais je pense qu'on doit travailler effectivement à féminiser en fait le coaching, parce que les femmes travaillent bien, on le voit en Europe, on le voit aux Amériques, on le voit en Amérique latine, beaucoup de responsabilités sont données aux femmes pour les sélections, pour la tenue des sélections, notamment Lamine chez les hommes. On a aujourd'hui des femmes qui tiennent effectivement des sélections masculines. Et je pense que c'est plutôt rare, mais ça se fait de plus en plus. Et je pense qu'en Afrique, on ne doit pas avoir peur en fait de donner les rênes et les responsabilités aux femmes pour les sélections féminines. notamment aussi chez les jeunes ou chez les hommes, pour pouvoir justement développer ces capacités-là, parce que le football féminin, certes, en tout cas sur la Coupe d'Afrique des Nations féminines, ça existe depuis 14 éditions, ça fait pas longtemps, c'est assez récent, en tout cas pour ainsi dire, mais je pense qu'il doit y avoir un développement effectué au niveau du coaching, au niveau des moyens financiers alloués pour aider le football féminin africain à se développer et à grandir. Parce que quand on voit effectivement quelques joueuses qui s'envolent vers l'Europe, je pense qu'on doit pouvoir les retenir avec effectivement de la formation, avec des moyens financiers, avec voilà, des coachs qui arriveraient à travailler et à faire monter effectivement ces sélections. Là, moi, la tendance qui se fait sur cette édition 2022, coach Lamine, moi, ce qui me plaît, c'est que on a des équipes comme le Cameroun qui sont régulières. On a des équipes comme la Zambie qui ont fait aussi un gros travail face au Togo, qui n'ont pas démérité. Et il y a cette sélection du Nigeria qui reste effectivement reine et maître, on va dire maîtresse du continent, et qui a réussi à faire un carton face au Burundi. Donc, c'est des tendances qui s'affirment, c'est des tendances qui se sentent et que l'on voit effectivement de plus en plus. Et je pense qu'on devrait pouvoir aussi passer, coach Lamine, on est à 12 équipes pour le moment, mais passer à 16. Là, ça pourrait effectivement aussi offrir la possibilité à d'autres pays qui travaillent dur pour leur sélection féminine de pouvoir participer à des Coupes d'Afrique des Nations comme celle-ci.
Alors, déjà, doyen, 3 équipes sur 12 qui ont un coach féminin, et puis passer de 12 à combien vous avez dit, à 16, est-ce que ce n'est pas prématuré? Parce que quand on voit quand même certaines équipes, comme par exemple, je vais encore me moquer un peu de mon ami Adama du Burkina Faso. Je veux dire, on ne peut pas faire 16 équipes sur une Coupe d'Afrique des Nations féminine, alors qu'on est déjà 12, commencer à 12, préparer les 12, et puis ensuite essayer au moins de grignoter la valeur de ces équipes africaines-là face à des équipes européennes.
Oui, mais à les regarder jouer, les valeurs sont là, les talents sont là. C'est le travail qui manque. Je l'ai toujours dit, ça. Qu'en Afrique, les talents sont là. On a vu le Togo, par exemple. Je vous dis à chaque fois ici que le Togo est un grand pays de sport. Pourquoi on a vu les Togolaises tenir tête au Cameroun à un but partout? Le Togo qui n'a même pas un championnat féminin, mais on a vu, parce que les talents sont là, il faut du travail. Mais ce qui s'est passé avec le Togo, c'est que c'est la base, et c'est leur base, c'est le talent du sport togolais qui s'est montré là-bas sans un grand boulot derrière. Donc, c'est comme le Burkina, dans quelles conditions les Burkinabés se sont préparés? Mais c'était d'une tristesse incroyable. Donc, l'Afrique fait très vite. L'Afrique, comme on dit, à 16, on peut partir à 16 rapidement parce que les talents sont là. C'est le boulot qui manque.
Alors, 0155 07 58 00, qu'est-ce que vous en pensez, une femme coach pour une équipe
le
féminine?
Togo a une femme coach.
Une Française qui s'appelle d'ailleurs Ophélie Merelou, n'est-ce pas, qui est entraîneur en deuxième division, mais qui a déclaré sans préférer aux entraîneurs, c'est-à-dire donc des coachs femmes à des coachs garçons, parce qu'elle dit, sans mentir, c'est vraiment différent, la manière dont les coachs hommes coachent et prennent les joueuses est différente de la manière dont les coachs femmes nous prennent. Entre femmes, on arrive à se comprendre vite. Donc je crois qu'avoir un coach femme pour une équipe féminine, c'est mieux.
Oui, c'est mieux, parce que bravo aussi à l'organisation. Il faut aussi noter que tous les arbitres sont des femmes.
Ah, ouais, ben voilà. Ça, c'est important. La féminisation de l'arbitrage, elle est là. Ouais, coach Lamine, elle est bien là. Non, mais c'est important de le souligner. Il y a des efforts qui sont faits sur le football féminin. Je pense qu'au niveau de l'arbitrage, si on n'a que des femmes, c'est très bien. Ouais. Alors oui, effectivement, il faudrait plus de sélectionneurs femmes pour les sélections footballistiques donc du côté de l'Afrique au niveau football. Je pense qu'il y en a un qui peut peut-être nous en parler un peu mieux, peut-être au niveau du Cameroun. En tout cas, c'est Dipita qui est avec nous depuis l'Afrique.
Bonsoir Dipita, avant qu'on aille voir Christian Chango et bien sûr Adama Sourabier. Dipita, bonsoir.
Allô. Bonsoir Hakim.
Bonsoir.
Heureux de vous retrouver pour cette dernière.
Ouais, la dernière de la saison pour le moment. Hein. Et donc, après, c'est les vacances. Alors, Dipita, si on devait faire un bilan, on a bien sûr parlé rendu hommage à un de nos correspondants qui nous a quittés ce week-end. Mais c'est surtout aussi faire le point par rapport à cette équipe camerounaise qui est en train vraiment d'être une des favorites sur le continent par rapport à cette Coupe d'Afrique des Nations féminines. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'équipe du Cameroun qui a beaucoup, beaucoup de talent dans son sein?
Bah oui, c'est vrai, mais il faut peut-être d'emblée remarquer que l'équipe a commencé assez difficilement la compétition. Elle est partie favorite dès le départ, mais les deux premiers matchs, des matchs nuls, n'ont pas forcément satisfait l'opinion, le public au regard justement du potentiel. Mais c'est également une équipe en pleine transition, des joueurs comme Nganami, qui n'est plus là, vous le savez certainement. C'est vrai, Aboudi, Ongéné, elle est toujours présente, mais ce n'est plus forcément la forme d'antan. On a pu observer que dans cette équipe, elle pèse un peu moins que les années antérieures. Mais cela dit, on est satisfait de voir qu'Adjara a gardé la forme. Et puis il y a Gombor qui a été très, je veux dire, extraordinaire contre la Tunisie. L'objectif était de passer au deuxième tour. Après ce premier tour, qu'on va finalement dire un peu pénible, hein, je l'ai dit, deux matchs nuls. Le Cameroun n'attendait pas ces deux matchs nuls, dont un contre le Togo. La victoire contre la Tunisie rassure. Maintenant, on va essayer d'entrevoir la prochaine rencontre. C'est le Nigeria, une équipe connue, Cameroun-Nigeria, dans le football féminin. Ce sont des affiches qu'on a souvent vues à l'époque, mais qui n'ont pas souvent été à l'avantage du Cameroun. Et cette fois-ci, on espère pouvoir quand même essayer de faire quelque chose de beau. Mais je le dis encore, l'équipe ne rassure pas tout à fait. D'ailleurs, lors de la séance d'entraînement d'avant Cameroun-Tunisie, vous avez vu toute la polémique qui est née. Du fait de la présence du directeur technique Noah pendant la séance d'entraînement, alors que le coach Zabo lui préparait les équipes. Ça fait toute une polémique ici. Tout le monde s'est demandé est-ce que Zabo a été mis de côté ? Est-ce que le système de jeu que Zabo a initié depuis le départ pose problème véritablement ? Et là, le DTN, le directeur technique national, est venu. Il a fait dans les trois ateliers. De l'entraînement préparatoire à Roma contre la Tunisie. Il a animé le premier atelier. L'équipe a gagné en jouant de façon agréable. Et tout le monde se dit, tiens, c'était peut-être là que se posait le problème. Donc on va observer, on va voir pour la suite. Et qui sait peut-être, le Nigeria, cette fois-ci, sera la bonne.
En tout cas, finale avant la lettre hein, entre Cameroun et Nigeria. D'autant plus que les Super Falcons vous ont battu à 4 reprises par rapport à votre confrontation. J'espère pour vous que ce sera la bonne. Et puis, essayer de voir dans quelle mesure cette équipe camerounaise peut passer. Parce que réellement, Doyen, c'est une équipe quand même qui tient bien la route.
Oui, mais le problème, moi, à chaque fois au niveau de la CAF, j'arrive à voir ça. C'est-à-dire que on élimine nos favoris avant qu'on y aille. C'est-à-dire que les quatre qui vont être qualifiés, ouais, mais ça ne me fait pas rire du tout. Parce que nous, les Européens protègent leurs favoris et nous, je ne sais pas comment on
fait le tirage.
Oui, quel tirage ça? Parce que les deux pays, le Cameroun et le Nigeria,
sont des bonnes chances.
C'est ça, pour la Coupe du Monde. Donc, il y a un qui va être éliminé. Donc, à chaque fois, on s'arrange à faire ça. Je ne sais pas comment. Mais quand on voit les Européens, on va voir la France qui va jouer contre les îles Féroé, il sera à la Coupe du Monde.
Willy, c'est vrai qu'il souligne un point important là-dessus. Hein. C'est malheureusement dans boule froide, boule chaude, comme on dit souvent dans le tirage au sort, il faudrait trouver un équilibre. C'est vrai que c'est une belle confrontation qu'on va avoir, un beau quart de finale entre le Cameroun et le Nigeria. Même si du côté du Nigeria, il y a leur attaquante, la joueuse de Barcelone, qui manque. On a vu quand même l'attaque du Nigeria qui a été performante. Mais on attend de voir la confrontation. Si on devait se mouiller, je pense quand même que le Nigeria est peut-être légèrement, mais vraiment légèrement au-dessus du Cameroun. Mais sur la forme de la compétition, ça va être pour moi l'affiche, comme tu l'as dit, la finale avant l'heure.
Alors Jocelyne, bonsoir. On ne vous a pas vu, vous, concernant le Bénin au niveau de cette Coupe d'Afrique des Nations. Vous allez aussi
bientôt
rater. Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir Lamine.
Là où il y a bonsoir, les femmes, on ne vous voit pas.
Bonsoir, Jocelyne.
Bien sûr, bien sûr. Vous savez, quand il s'agit de football, toutes les fois, quand il s'agit du Curon, il y a forcément des fans, peu importe que ce soit les hommes ou les femmes. Quand il s'agit de football, ça draine beaucoup de fans. Donc, les Béninois aussi ont leurs fans dans cette compétition.
Alors, vous suivez qui ? Quelle est l'équipe que vous suivez ? C'est le Togo ? Les voisins d'en face ?
Le Togo, mais beaucoup plus le Nigeria.
Ah, ouais, c'est un voisin aussi.
Oui, voilà. Un grand voisin de l'Est, comme on aime bien l'appeler. Et puis, vous savez, quand on parle quand même de cannes féminines, le Nigeria a un palmarès. Donc, je pense que les attentions du Bénin sont beaucoup plus focalisées sur l'équipe nigériane.
Ok. Alors, Jocelyne, c'est la dernière avant les vacances. Est-ce que vous pourriez nous faire un point concernant tout ce qui s'est passé au niveau du football béninois, qu'on puisse vraiment avoir le point pour nos auditeurs et éventuellement qu'ils puissent vous poser des questions 0155 07 58 00. Alors,
déjà pour faire le point en ce qui concerne l'actualité béninoise cette saison, on va commencer par les Écureuils du Bénin qui quand même sont dans leurs préparatifs pour les éliminatoires de la CAN, de la prochaine CAN en Côte d'Ivoire, qui ont déjà fait deux faux pas. Donc la suite s'annonce quand même compliquée pour cette sélection béninoise-là, qui n'est pas qualifiée pour la Coupe du Monde. Donc qui n'a pas pris part à la dernière CAN non plus et qui est en train d'essayer de se relancer pour décrocher un ticket pour la CAN 2023. Donc, en ce qui concerne les Écureuils, c'est ce qu'on peut retenir. Maintenant, en dehors de ça, pour revenir au championnat local, eh bien, je pense que l'information est passée, tout le monde le sait. Coton FC est l'équipe championne du Bénin pour le compte de la saison 2021-2022.
Alors, voilà. C'est une équipe, ça n'a rien à voir avec l'équipe des étudiants ?
Non.
Non, rien du tout, rien à voir avec l'équipe des étudiants. L'équipe des étudiants, c'est ESAE qui est devenu l'Autopopo. Mais actuellement, ils ont fini à la troisième place, si je ne me trompe. Parce que ce sont les Buffles du Borgou qui sont vice-champions du Bénin. Ouais. L'Autopopo, qui, la saison dernière, était l'équipe championne, je ne vous apprends rien.
Ouais. Qui est entraîné
ça n'a pas marché.
Et qui est entraîné par le Marocain
Ouadou.
Abdes Ouadou.
Ah oui,
l'ancien international marocain Ouadou.
On ne sait pas s'il est algérien ou marocain.
Cette saison, ça n'a pas beaucoup marché pour les étudiants de ESAE qui en temps sont devenus le Topopo. Donc, ils n'ont pas pu décrocher ni la première ni la deuxième place. Donc, ils ne prendront pas part aux compétitions africaines. C'est dommage parce qu'ils étaient quand même bien partis. L'idéal aurait été qu'ils continuent sur cette lancée-là parce qu'ils ont déjà quand même une petite expérience en la matière. Et il faut rappeler quand même que c'est une équipe qui est arrivée dans le championnat béninois la saison dernière qui a fait forte sensation. Parce que c'était ESAE qui a été étoffé de nouveaux joueurs et sous les couleurs de l'Autopopo. Mais quand ils sont arrivés, ils ont tout ravagé sur le chemin. Ils ont fini en tête, en tête du championnat. Mais l'équipe de Coton FC, qui est dirigée par le fils du chef de l'État, est arrivée cette saison et à son tour s'est fixé comme objectif détrôner l'Autopopo.
Ah ben, et s'il est dirigé par le fils du chef de l'État, il y a intérêt à les laisser gagner. Hein.
Sinon, ça, c'est chaud. Sinon, c'est compliqué.
Bon, je pense qu'il ne faut pas voir la chose sous ce ton-là.
Non.
C'est une équipe où, quand même, ils ont su mettre les petits plats dans les grands. Ils se sont donné les moyens. Parce que quand ils sont arrivés, ils ont dit qu'ils veulent finir en tête du championnat, qu'ils veulent être premiers du Bénin. Donc, ils se sont donné les moyens, ils ont ramené un entraîneur blanc, un sélectionneur blanc, un entraîneur, je dirais, blanc. Ouais. Et ils se sont entourés quand même des meilleurs dans le staff. Et ils ont eu aussi le temps de prendre les meilleurs joueurs sur le tas.
Ouais.
Donc, dans les autres clubs, ils sont quand même allés chercher les meilleurs joueurs. Ils ont pris même des joueurs de l'Autopopo. Ouais. Parce que, bon, ils se sont donné les moyens de leur politique et ça a marché. Je crois que ça n'a pas forcément des influences parce que c'est le fils du chef de l'État.
Non, c'est parce qu'il y avait
c'est une première place bien méritée.
Il y a le coton. Donc, vous savez, le coton sport de Garoua, ils sont les meilleurs au Cameroun. Il y a le coton, donc à part le pétrole, il y a le coton aussi. Donc,
D'accord, nous, on n'a rien dit, il ne faut pas créer.
Ah, juste pour vous répondre, Lamine Abdeslam Ouadou, un ancien international marocain.
Ben oui, non, mais je sais.
Ouais, non, de la manière.
Non. C'est de la manière dont il défend l'Algérie qui m'étonne.
Oui, après, c'est
parce qu'il a passé
la proximité avec.
Non, il a passé tous ses stages avec l'équipe de l'Atlas. Voilà. Voilà, c'est
alors,
pour, ça.
Pour revenir à l'actualité du football féminin au Bénin, très rapidement, les écureuils d'âme n'ont pas réussi les challenges pour pouvoir se hisser au niveau de cette finale qui est en train de se jouer au Maroc, là, parce qu'il y a une équipe quand même qui a pris part aux éliminatoires, qui a été battue par le Burkina en aller-retour, par le Niger. Donc finalement, les écureuils d'âme n'ont pas eu la chance. Je crois qu'elles sont encore en apprentissage parce que pendant des années, il n'y a pas eu de sélection de sélection d'âme au Bénin pendant des années. Ouais. Donc c'est une sélection qui est en train de forger ses âmes et qui va sûrement rebondir très prochainement.
Okay.
Du coup, côté dames, il n'y a pas eu grand-chose. C'est rapidement ce que je peux vous dire. Maintenant, pour revenir peut-être aux catégories d'âge, vous savez, les U17 du Bénin sont qualifiés pour la prochaine CAN.
Ouais.
Les U20 ont essayé, mais n'ont pas pu, qui malheureusement ont fini au pied du podium, donc n'ont pas pu se qualifier. Mais les U17, quand même, ils ont fait le job. Donc,
Joseline, il va faire comme Christian Chango et Hakim. Dès qu'ils n'ont pas de grands résultats chez les grands, ils vont chercher chez les moins de 13, les moins de 11.
Ces résultats, ils comptent, Lamine.
Attendez.
Laissez parler, Joseline.
Laissez-moi vous raconter une petite histoire concernant les sélections de catégories d'âge. Vous savez, pendant longtemps, le Bénin n'a fait que compter sur ces catégories d'âge-là. Et parfois, la rumeur dit que l'écureuil, quand il est plus jeune, il est plus actif, il donne beaucoup plus de résultats. À partir du moment où il grandit, ça, l'écureuil, même l'animal, c'est déjà ça. Donc, je pense que ça agit d'une manière ou d'une autre.
C'est bien répondu, Jocelyne.
Parce que l'animal écureuil, quand il est plus jeune, il est plus dynamique, il est plus
comment plus costaud. Donc le vieux est fatigué, quoi.
Non.
Voilà. Quand, plus ils ont
lieu. Bien répondu, Jocelyne.
Non, c'est pas ça. Et Jocelyne, ce qui est positif dans ce que tu racontes, ce qui est positif là-dedans, c'est que les écureuils actuels sont plus ou moins fatigués. Donc la relève est là. Donc le problème qui se mais c'est très important pour le Bénin.
Messieurs, on va faire une petite pause, on va revenir. Alors, Jocelyne, merci beaucoup. Adama Sorabier, vous nous ferez le point concernant le Burkina Faso. Et puis, bien sûr, merci, du côté Jocelyne. Du Cameroun aussi, on fera le point. À tout à l'heure.
Plein feu sur les championnats africains sur Africa.
Sur la radio africaine, Paris 107.5 Africa. Radio sur Abidjan, c'est 91.1. Sur Brazzaville, bien sûr, Africa Radio, c'est 94.5. Messieurs, nous allons parler. Et puis, si vous voulez, bien sûr, nous rejoindre sur ce plateau, 01 55 07 58 00. Nous sommes avec Marco Momo. Marco, justement, vous pouviez... allô, vous m'entendez? Allô,
oui,
Marco.
Je vous entends, coach.
Alors, nous faire le point sur le football de RDC avec tous les résultats de l'année, d'une manière générale, rapidement. Le tout-puissant Mazembe, comment se passe le pied de Jésus, la RDC Dieu merci Mbokani.
On a pris cher contre le Maroc, on s'est fait, taper. Hein. Ça a été
alors,
dur, hein.
quelle est l'ambiance du football RDC?
Et justement, doyen, coach, pardon, il y a beaucoup de choses à dire en ce qui concerne le football sur cette saison, puisque l'actualité concerne la Coupe d'Afrique des Nations féminine. La RDC, malheureusement, n'a pas pu participer aux éliminatoires. On va se rappeler de l'épisode de Malabo avec le vol raté. Et malheureusement, la RDC d'âme a été disqualifiée de la course vers la qualification à la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2022. Mm-hmm. Et ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Sinon, le football féminin en RDC est en train de dépanner. Il y a une certaine désorganisation et également, il n'y a pas un appui assez considérable des autorités, puisque on a connu avec les U17, ça fait le buzz. Et là, avec les seniors, on a connu ces vols ratés. La RDC a été disqualifiée. Mais sinon, le championnat féminin s'est clôturé au mois de juin dernier avec le sacre TP Mazembe, dame. Après deux ans d'existence, le TP Mazembe est au sommet du football féminin en battant les CFC Bikira de Kinshasa 3-1 en finale. C'était au mois de juin dernier. Mmh. Et chez les messieurs, le tout-puissant Mazembe Anglebert est sacré champion de la 27e édition de la Ligue nationale de football. Les Corbeaux du TP Mazembe devancent l'AS Victoria Club. Et le FC Saint-Éloi Lupopo, il faut souligner que Lupopo revient en Afrique 7 ans après. 7 ans après, les Viettes vont donc retrouver l'Afrique, ce club rival du tout-puissant Mazembe Anglebert. C'était fixé l'objectif de remporter la Ligue nationale de football et également de participer à une compétition africaine interclub. Je le fait, Lupopo va retrouver l'Afrique, mais malheureusement, Lupopo n'a pas su gagner les titres. Pourquoi ? Vous savez, le championnat a connu une période d'arrêt de 3 mois, puisque le gouvernement qui avait pris en charge les titres de voyage des équipes de la Ligue 1 et de la Ligue 2 n'a pas honoré ses factures vis-à-vis de la compagnie d'aviation. Et le championnat était à l'arrêt, le championnat a réussi. Alors, le championnat n'a pas encore pris fin, puisque certains matchs restent à jouer, notamment les matchs qui opposera Maniema Union au Taringa Club à Motema Pembe. Déjà, c'est des clubs qui a assez faire. Maniema ne sera pas africain. Les autres Motema Pembe et rebattu ou encore préféré la voie de la Coupe du Congo pour se retrouver en Afrique comme 4e club congolais en interclub de l'Afrique. Et je verrai la confédération.
On a l'impression qu'on le perd un peu.
Je disais, il va donc jouer la Coupe de la Confédération et là, certains matchs restent donc à jouer. Voilà un peu sur le plan football ce qui se passe, mais on ne va pas oublier qu'Esther Cooper est la République démocratique du Congo. C'est une histoire qui appartient désormais au passé. Mmh. Après un entraînement sinistre en éliminatoire de la Coupe d'Afrique Côte d'Ivoire 2003, et la RDC a préféré, le gouvernement a préféré mettre un terme au contrat qui était le
Marco, on a du mal à vous entendre. On va essayer de réparer ça et de revenir. Hakim, donc on connaît déjà les champions du côté de la RDC. Mm-hmm. On va rapidement passer la parole à Christian Chango pour qu'il puisse nous faire le point maintenant sur
les résultats.
Les résultats et revenir sur les résultats de cette CAN féminine et qu'on continue rapidement sur les transferts.
Exact. Donc la CAN féminine, on le rappelle, là, c'est les quarts de finale qui vont avoir lieu à partir de mercredi. Mercredi à 19h, Zambie face au Sénégal. Mercredi à 22h, le Maroc face au Botswana. Le Cameroun face au Nigeria, la grosse affiche, ce sera jeudi à 19h. L'Afrique du Sud face à la Tunisie, ce sera jeudi à 22h. Dans les résultats principaux, le match d'ouverture, le Maroc face au Burkina Faso, il y a eu 1-0. Dans certains résultats, le Sénégal a battu l'Ouganda 2-0. Le Nigeria avait perdu, on le rappelle, d'entrée de jeu, 2-1 face à l'Afrique du Sud. Mais plus de peur que de mal, puisque le Nigeria a réussi, bien sûr, à sortir de sa phase de poule. Et on le rappelle, à l'issue de ce tournoi, on aura 4 équipes. Les 4 demi-finalistes seront les représentants pour le football féminin du côté de la prochaine Coupe du Monde. Actuellement aussi du côté de l'Europe, on le rappelle, l'euro de football qui se joue. Donc là, c'est vraiment le football féminin qui brille. Et aussi, dans 2 ans, hein, il y a les Jeux Olympiques aussi, donc les féminines aussi seront à l'honneur. Donc hâte de voir la progression de nos joueuses et surtout de voir aussi comment la CAF va accompagner le foot féminin pour continuer à le faire grandir.
Willy Dorkenou, le football féminin qui, comme l'a souligné tout à l'heure le coach Lamine et notamment Christian dans ses résultats et dans ses analyses aussi, le football féminin qui progresse en Afrique. Malgré tout, on a beaucoup de choses effectivement à rectifier, à travailler pour pouvoir justement voir éclore d'autres sélections africaines. En tout cas, certains pays y travaillent. Vous en pensez quoi de l'évolution du football féminin depuis ces dernières années, Willy Dorkenou?
Oui, ça a été très rapide parce que en quelques années, on a vu des joueuses africaines qui jouent à Barcelone, comme je l'avais dit avant. Donc, c'est une progression très rapide par rapport à ce que je connais du football africain. Et globalement, c'est-à-dire que quand moi j'ai quitté l'Afrique dans les années 80, même 90, ça n'existait pas. Ça n'existait que au niveau de l'Afrique du Nord, un peu au niveau de la partie sud de l'Afrique. Maintenant, on peut trouver des pays où, regardez le Bénin, où il n'y a même pas de championnat, on a pu avoir une équipe féminine. Donc, c'est que les talents sont là, mais il manque que le boulot partout en Afrique, c'est ça. Il y a les talents sont là, on n'a même pas le besoin de les former. Les talents sont là.
Il faut les accompagner.
Les talents, prendre au sérieux. Les talents sont là. Marco Momo qui est toujours avec nous, on va le prendre dans quelques instants. Restez bien avec nous, Marco Momo. On va demander justement l'avis d'Ipita sur l'évolution du football féminin en Afrique, mais notamment avec son expérience du côté du Cameroun, d'Ipita, où vous êtes justement pour nous donner une petite photographie de ce qui se passe du côté du Cameroun au niveau du football féminin. Quels sont les manques, mais quelles sont notamment les avancées d'un point de vue sportif sur le football féminin au Cameroun, d'Ipita?
Il faut dire que le championnat de foot féminin n'existe au Cameroun que depuis 2008, ça il faut le savoir. Mais il faut également noter que c'est une catégorie qui a connu beaucoup de difficultés jusqu'à présent. C'est vrai, au niveau de l'équipe nationale, le Cameroun a eu de belles performances parce que les filles, quand elles finissent ici, elles deviennent professionnelles et du coup, les joueurs locaux, on ne les retrouve pas beaucoup en équipe nationale. Mais cela dit, c'est un championnat qui a été très chaotique, manque de moyens, de temps en temps des grèves parce que les filles réclamaient de l'argent ou des primes, des conflits avec la Fédération Camerounaise de foot. Mais depuis 2020, il faut reconnaître qu'il y a eu une signature de contrat pour financer le football féminin avec une entreprise brassicole de la place. Et il faut dire que depuis ce moment-là, donc, on a pu voir que les équipes féminines sont subventionnées. Et du coup, ça redonne envie de jouer, ça redonne les moyens aux équipes de pouvoir aller chercher même dans les catégories inférieures, parce qu'il n'y a pas plus le championnat d'élite désormais, où les filles évoluent. On fait des prospections dans les établissements scolaires, on essaie de voir les filles qui ont le potentiel pour intégrer ces équipes-là. Il faut peut-être le dire également, cette année, on a pu voir que la championne, si on peut le dire comme ça, du Cameroun, est Awa FC, avec une très belle performance, on a joué cette année donc. Mais à côté de cela, l'évolution du football a également permis la promotion des arbitres femmes. Pas moins d'une trentaine ont pris part, par exemple en octobre dernier, un stage d'avant-saison pour animer cette compétition-là. 15 arbitres et puis des assistantes, 16. Pendant près de 3 semaines, se sont imprégnés de cela d'ailleurs. On en parlait tout à l'heure, je voulais bien le signaler. Il y a au Cameroun, du côté de la CAN féminine là-bas, il y a une arbitre au Maroc, camerounaise, qui officie en tant qu'officielle parmi ces arbitres qui sont retenus. Karine Atezambon, qui est effectivement de la délégation des arbitres. Donc, c'est une fierté. On a pu voir comment cette compétition-là a donc progressé. Mais je voudrais remarquer, il y a cette distance un peu entre la performance ou les performances de l'équipe nationale de foot et puis l'évolution normale même du football au niveau des clubs.
Ouais, du football au niveau des clubs, l'évolution effectivement qui se poursuit petit à petit. Dipita, en tout cas, restez avec nous. On va poursuivre un petit peu sur d'une manière générale l'analyse, Christian, aussi au niveau global sur le football camerounais. On a eu aussi la nomination de Samuel Eto'o en tant que président au sein de la Fédération camerounaise de football. Ça aussi, c'était important d'en parler. Qu'en pensez-vous, Dipita, en tant que journaliste, bien évidemment, mais avant tout en tant que supporter des Lions Indomptables du Cameroun?
Élection, pas de nomination. C'est vrai, une élection assez contestée, j'ai failli dire difficile. C'était le 21 décembre 2021, le 11 décembre, 2021, en fin d'année dernière, au Tamil Etopi dans un processus qui a fortement été contesté par les différents partis, mais finalement qui a été accepté par certains, puisque juste après, il y a des procédures au niveau du TAF. D'autres estiment que Samuel, ou du moins que les textes pour élire un président n'ont pas été normalement respectés. Donc le TAF a d'ailleurs donné rendez-vous au football camerounais à la fin de ce mois de juillet, au plus tard le 31 juillet, où il va statuer définitivement sur la validation non de l'élection de Samuel Eto'o. Mais cela dit, sur le plan du jeu, il faut quand même reconnaître que cette saison a été un peu exceptionnelle. Parce qu'il faut savoir que la saison dernière, il y a pratiquement une saison et demie, on n'a pas eu de match complètement. À cause de, d'abord Covid, c'était en 2020, et puis après il y a eu des problèmes entre clubs, joueurs et tout le reste. On a eu une saison bonne. Alors Samuel est revenu et Samuel a relancé une saison assez particulière. On a joué entre mars et juillet, donc un championnat assez rapide, dans une formule vraiment très speed. Les équipes jouent tous les trois jours. Et puis, la première phase est achevée. On a joué les play-offs du côté de Garoua, où d'ailleurs Coton Sport de Garoua a été vainqueur face à Edinford, champion du Cameroun. Donc, après une séance de tirs au but, trois tirs pour et deux contre, un match nul, un but partout. Mais cela dit, c'est une saison exceptionnelle, justement, parce qu'il fallait rattraper déjà le temps perdu. Et d'ailleurs, exceptionnellement, à cause des problèmes du football camerounais, les équipes qui auraient dû être reléguées il y a deux ans, donc en 2020, les cinq équipes qui devaient redescendre, on a trouvé une formule pour leur permettre de rediscuter cette compétition-là. Et finalement, la saison s'est achevée. Tout le monde était content parce que c'était une très, très belle rencontre entre Coton Sport, il y a deux semaines, Coton Sport de Garoua et Edding Sport. En aucune, d'ailleurs, vous savez que depuis qu'on a pu faire les stades au Cameroun par rapport à la CAN qui s'est jouée ici en janvier, vraiment, c'est devenu... on joue en aucune désormais et c'est très plaisant, c'est très agréable. C'était le cas du match Coton Sport et Edding Sport pour le champion du Cameroun. Désormais, donc, on attend la finale de la Coupe du Cameroun. Si le jour n'est pas précisé, on sait au moins qu'elle va se jouer en août. Et dès lors, en septembre, la FECAFOOT voudrait donc relancer normalement pour rattraper le temps et certainement redonner une compétition, j'ai failli dire, presque normale, avec 6 à 7 mois de compétition pour que les équipes soient effectivement au niveau africain.
Ouais, effectivement. En tout cas, on vous remercie beaucoup pour cette analyse complète de cette belle photographie du football camerounais. Dipita, c'était très clair et encore merci pour vos éclaircissements et votre analyse. Dipita, bah, on vous souhaite surtout un bel été. Est-ce que vous partez un petit peu en vacances?
Ben, ça va être un peu compliqué parce que là, nous sommes en train de sortir du mois de juillet, dès le mois d'août. Là, je voulais dire, on a la Coupe du Cameroun et puis en septembre, ça reprend. Et il y a d'autres compétitions, puis il y a d'autres actualités que l'on suit. Mais cela dit, je pense qu'en fin d'année, ça va se reposer un peu.
Ouais, vous allez voir. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir avec nous cette année et pour cette dernière de la saison. Toujours un plaisir de vous avoir avec nous, Dipita.
Plaisir partagé.
Merci beaucoup, Dipita. À très, très vite.
Bonne vacances à tous.
Merci, à très vite Dipita. On va poursuivre, Christian, avec notamment les transferts au niveau des joueurs effectivement africains. Il y en a eu pas mal, notamment au cours de l'année, notamment en début d'année, mais notamment aussi sur ce mercato d'été. C'est Christian, beaucoup de surprises, beaucoup de mouvements du côté des joueurs africains.
Du côté des joueurs africains, on va donner déjà les transferts qui sont validés. On a Jean-Michel Seri, l'international ivoirien, qui vient d'avoir ses 30 ans, qui est transféré pour 3 années à Hull City en 2e division anglaise, donc en championship. Un peu, malheureusement, un peu un déclin pour Jean-Michel Seri, qui
était un super joueur du côté de Nice.
Qui était à Nice, qu'on a annoncé à Barcelone ou à Naples. Le transfert, rappelez-vous, il avait capoté à la toute fin de l'été quand il devait aller du côté de Barcelone.
Ouais, exactement.
Et ça l'avait mis, psychologiquement, ça l'avait mis à terre. Ouais. Et après, il est parti, il a été prêté un peu du côté de la Turquie, du côté de l'Angleterre. Mais je crois que ce non-transfert a brisé sa carrière.
Vous qui êtes toujours dans les transferts, est-ce que un loupé dans un transfert peut briser la carrière d'un joueur?
Oui, ça peut, parce que on appelle quelque chose le timing, c'est-à-dire qu'on peut être en haut de l'affiche cette année et le lendemain on n'a plus rien. C'est-à-dire que je prends le cas des attaquants surtout. On peut être meilleur buteur aujourd'hui et dans un an ne pas mettre un seul but. Parce que c'est ça le football et surtout le sport. Donc, il faut battre le fer quand il est chaud. Si on doute, ou bien on fait un choix non sportif, ou bien on fait un choix financier, on peut briser sa carrière d'un coup de...
Alors, prenons un exemple. On a Dembélé.
Oui.
Dembélé à qui on demande de renouveler. Il refuse de renouveler.
Ouais.
Et aujourd'hui, à Barcelone, bien sûr, hein, ouais. Dembélé. Et aujourd'hui, il a renouvelé son contrat pour 2 ans.
Oui.
Mais avec au moins 40% de baisse de son salaire.
Ouais.
Est-ce que réellement, c'est parce que le PSG n'a pas voulu de lui qu'il est resté à Barcelone ou pas?
Et Dembélé et son agent, ou bien son entourage, ont fait un bon choix. Ils ont fait, dans ce cas-là, un choix sportif. Ils ont perdu de l'argent. Mais Dembélé a bien fait, parce que Dembélé a été mis en doute dans son club. Il est revenu, resté, pour prouver quelque chose dans le même club. Donc, vous allez voir que l'an prochain, il serait à un niveau supérieur. Mais s'il part, et il sera bien payé, moi, tout le monde, tous les clubs du monde veulent du Dembélé. Il a des propositions partout. Quand on est agent, on sait de quoi il s'agit. Mais il a fait un très bon choix. C'est-à-dire qu'on appelle ça un choix sportif.
OK. Jean-Michel Chéry.
Oui, Jean-Michel Chéry. Donc, Jean-Michel Chéry, hein, donc 30 ans, qui vient d'avoir 30 ans. Donc, pour 3 ans, il vient de signer du côté de Hull City en Championship, donc en deuxième division anglaise, messieurs. On enchaîne avec...
On peut peut-être demander l'avis de... je crois qu'il y a Marco Momo qui est toujours avec nous depuis Lubumbashi, coach Lamine, Christian. Il est avec nous encore, peut-être lui demander son avis, puisque je sais qu'il avait un œil à viser sur Monsieur Seri. Et le Mercato, effectivement.
Ah ouais. Marco Momo. Est-ce que Marco nous entend?
Oui, je vous entends, effectivement. Je crois que du côté Mercato, en RDC, on a été beaucoup plus... encore attiré par le mouvement de Jackson Muleka qui a signé avec les Beşiktaş contre un chèque de 5 millions d'euros. Et dans cette transaction, le tout-puissant Mazembe devrait encaisser au moins 50% du montant de transfert. Et pendant ce temps, il y a Chancel Bemba qui est parti du FC Porto, fin contrat. Mm-hmm. Jusque-là, on ne connaît pas la prochaine destination du Congolais. C'est vrai qu'on a besoin qu'il puisse retrouver un club rapidement avec les échéances, des éliminatoires. On a vraiment besoin qu'on retrouve ces Congolais dans un club. Marcel Tisserand, pour sa part, est en train encore de rechercher, pourrait quitter la Turquie. Donc, autant de mouvements comme ça, nous sommes vraiment, vraiment attentionnés à voir où est-ce que les Léopards
vont Marco, c'est terrible.
Oui.
C'est terrible. Vous nous citez des joueurs et vous espérez les avoir dans les éliminatoires, mais ils ne viennent jamais. Et quand ils viennent, vous perdez. C'est ça aussi qui est extraordinaire.
Non, en fait, avant que la connexion ne puisse poser de sérieux problèmes, je voulais chuter avec la désorganisation, entre guillemets, de notre football. Puisque aujourd'hui, on est obligé de prendre... ce qui est pire, en fait, ce qui est mauvais pour éviter ce qui est pire. Mais en réalité, le football congolais est en train de connaître une phase descendante. Le championnat local s'est organisé sur une manche et pourtant il devait s'organiser sur 2 manches. Et d'ailleurs, il y a une plainte de Maniema Aignan qui conteste les classements puisque Maniema voudrait que le championnat se joue sur 2 manches. Déjà là, c'est un sérieux problème. Alors, si on a des joueurs qui n'ont pas de compétition, ça fait 3 mois, mieux vaut prendre même ceux qui sont remplaçants. Ici, chez nous, il y a toujours un principe qui dit mieux vaut être remplaçant au Real Madrid qu'être titulaire au tout-puissant Mazembe anglais.
Alors, on a comme moment, c'est une phrase anti-sportive. C'est une phrase anti-sportive.
Vous avez raison.
Avec tout ça, doyen, coach Hakim et Christian, oui. On était obligé de prendre ces joueurs-là qui ont quand même une compétition. Je veux vous rappeler le temps de Claude Leroy. Du temps de Claude Leroy, on avait une sélection pratiquement 50-50. Mm-hmm. Quand vous regardez la sélection de 2006, Tresor Mputumba, la Discote, Milambo, vous regardez tous ces gens-là, les Kabundji, ce sont des joueurs qui évoluaient au niveau de notre championnat. Mais aujourd'hui, ces championnats-là s'organisent d'une manière irrégulière.
Ben oui, mais c'est que si
vous... Et puis on reprend.
Si vous ne faites pas confiance à Trésor Mputu, pied de Jésus, c'est normal. On a Aïko. On a Aïko, il va vous poser une question donc, directement. Aïko Mpungi, ouais. Aïko, bonsoir.
Allô.
Oui, bonsoir, on Aïko, vous écoute, vous Aïko. Vous avez entendu, hein, c'est la désorganisation du football quinois. Hein.
Oui, tout à fait raison. Moi, je suis pour ce qu'il a dit là, c'est bon. Il ment pas, il a dit la vérité. Mais moi, je vais poser la question à votre consonance qui est à Lubumbashi. Marco Momo. Mais maintenant, comme il y a des désordres, que devons-nous faire pour que l'ordre rentre dans le football congolais? Parce que partout, ça ne marche pas. Qu'est-ce que nous allons faire vraiment? Comme le ministère de football, ils ont résilié le contrat avec l'entraîneur Cooper. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? La question que je pose, que devons-nous faire pour que le football congolais remonte encore comme on était avant, parce que ces derniers temps, vraiment, nous sommes en baisse. C'est ça ma question.
Ah, il ne faut pas faire le comment on appelle ouais. La danse bizarre, là, hein, comment elle s'appelle?
Le
Fimbu, et puis Nabokili, où il y a confiance et Zalité. Hein.
Ah non, c'est pas le Fimbu, mais c'est le problème d'organisation, quoi. C'est le problème d'organisation.
Oui, allez, répondez donc, Marco.
Moi, je pense qu'il faut revenir quand même à certaines méthodes qui nous ont aidés à remonter au niveau africain. C'était d'abord anormal qu'on ait un sélectionneur qui ne participe en aucun grand classique du championnat national. Docteur Cooper, c'est après le match RDC, et puis il remballe ses valises, il part. Donc, je crois qu'aujourd'hui, le football doit aussi s'organiser au niveau de la base. C'est anormal. Le Congo, avec toute la richesse de talent qu'il y a, connaît pas de championnat des jeunes. Ça commence par là.
Ouais.
Il n'y a pas de championnat d'âge organisé et structuré, il n'y en a pas.
Ouais.
Tout ce que nous voyons avec le tout-puissant Mazembe, l'AS Victoria Club, je le répète encore, c'est les côtés visibles de l'iceberg. Mais sinon, il faut s'attaquer au fond. Et quand on s'attaque au fond, on constate une désorganisation, on constate également un certain despotisme dans la façon de gérer le football congolais. C'est géré par un certain groupe au niveau des instances de football. Et ces instances là-bas privilégient beaucoup plus les intérêts de tel club ou tel autre club, et ça, il n'y a pas cet esprit-là de compétition. Mmh. Au-delà de ça, en sélection, ce n'est pas parce qu'on vient de l'Europe qu'on mérite une place de titulaire.
Ah,
Claude Leroy, on l'a fait voir, et on va se rappeler que la RDC, du temps de Claude Leroy, a quand même montré des bonnes choses. Même du temps de Florent Ibenguier, la RDC a montré des très bonnes choses. En sélection, une place, c'est mérite. C'est là que moi, je suis d'accord avec Samuel Eto'o quand il parlait dans la tanière de Lyon pour dire, vous pouvez venir de l'Europe, mais si c'est lui qui joue le championnat national ici est meilleur, il a sa place. Et pratiquement, nous sommes dans cette configuration. Il y a aussi une sorte de combine, entre guillemets, qui se passe. Tel vient parce qu'il a... Il a quelqu'un qui le chapeaute, il doit jouer pour justifier. En fait, ça doit s'arrêter. On doit privilégier beaucoup plus les intérêts d'une nation, puisque derrière cette équipe nationale, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de supporters. Ça ne concerne pas seulement les Léopards seniors A'. Il faut également voir avec les dames. Il faut également voir avec le junior, l'état des. Il faut voir à tous les niveaux comment organiser, comment structurer ces footballs-là et y mettre un peu du sérieux. Et je pense que la RDC pourra se relever. Ce que fait le tout-puissant Mazembe Angabert et ce que fait l'AS Victoria Club, les deux ne pourront pas soutenir tout un système qui est pratiquement pourri. Je m'excuse pour les termes, qui est pourri. Il faudrait que les animateurs aussi puissent accompagner ces deux clubs-là et que notre football, sur le plan national, puisse tirer beaucoup plus profit. Mmh. Et là, je vous signale que l'ancien sélectionneur, selon les rumeurs qui viennent pratiquement de la fédération, ancien sélectionneur du Nigeria, Gentwerp, l'Allemand, aurait déposé une candidature. Okay. On a tantôt dans le couloir, on parle de Pitso Mosimane, on parle également d'un retour de Jean-Florent Ibenge. La succession, en tout cas pour Hector Cooper, est ouverte. On essaie de voir qui va remplacer l'Argentin. La RDC est très mal partie avec deux défaites en deux journées. dans ces éliminatoires.
Christian Sango.
Cette équipe, hein, c'est incroyable. Hein. Cette sélection, c'est vraiment incroyable. Et bon, malheureusement, Ibenge a eu des résultats. Sur la fin, c'était un peu plus compliqué. On sait les conditions dans lesquelles il a bossé, notamment qu'il n'était pas payé, lui et son staff, alors qu'on donnait je sais pas combien à Hector Cooper. Donc ouais. Bon, c'est un peu bizarre. Après, sur ce qu'a dit Marco Momo, là, sur les potentiels sélectionneurs qui ont posé leur candidature, Motsimane, on l'amène à Akin, qui signe, il n'y a pas de problème. Hein. Au moins, ce sera mieux que Cooper. Et lui, c'est quelqu'un qui est sur le continent, qui va voir les matchs, qui va voir les joueurs. Et qui ne prend pas le joueur qui est sur le banc de touche au Real Madrid.
Le problème, c'est que Pizzo était encore sur les clubs.
C'est ça.
Sur les clubs. Ouais. Est-ce que le club, clubs et l'équipe nationale, ce n'est pas pareil?
C'est ça. Mais c'est pas pareil.
Moi, je serais pour que le retour, ouais. Mais je ne suis pas sûr qu'il accepte
Jean-Florent.
De venir.
Ouais, Jean-Florent. Il vient d'être champion d'Afrique avec Berkane, là. Donc,
c'est ça aussi le problème.
L'esprit club est plus important pour mener. Et pour diriger une équipe nationale, ouais. Mieux que les bandes de touristes qui traînent en Afrique, là, avec leur téléphone qui convoque les joueurs.
Jean-Florent Ibenge, ouais. Coach Lamine, là, il sort d'une belle victoire en Coupe continentale avec la Renaissance sportive de Berkane, qui a remporté la Coupe de la Confédération africaine. Je pense que ça serait une bonne chose. J'aimerais bien avoir justement l'avis de Marco Momo par rapport à ce probable
justement
retour
après
justement
la
de Jean-Florent Ibenge.
Juste après la pause.
Plein feu sur les championnats africains sur Africa.
Sur Africa Radio, 107.5 Paris, Abidjan 91.1 avec Hakim Djelouab, avec le doyen Willy Dorkono, Christian Chango est avec nous aussi. Messieurs, nous étions en train de parler un peu, bien sûr. Et il va répondre à ta question. Il va
voir un deux. J'aimerais bien avoir effectivement l'avis de Marco Momo sur le voilà un probable retour de Jean-Florent Ibenge côté de la sélection congolaise. Ça. Après, j'y crois pas effectivement parce que pour le moment, il est plutôt bien parti avec la Renaissance Berkane, qui est championne d'Afrique. Elle a remporté la Coupe de la Confédération africaine. Qu'est-ce qui se murmure du côté de la République démocratique du Congo sur le retour ou pas de Jean-Florent Ibenge, Marco Momo, vous en pensez quoi?
Effectivement, Hakim, il y a beaucoup de rumeurs ces derniers temps. Et en fait, ce sont des informations à prendre avec beaucoup de pincettes. Jean-Florent Ibenge pourrait quitter la Renaissance sportive de Berkane. Encore là, il faudrait le temps pourrait nous permettre de dissiper ces doutes. Mais il y a beaucoup de prétendants également. On sait que sa cote de popularité en Afrique n'a cessé de grimper ces derniers temps après son passage à la SV Club et également tout ce qu'il a pu réaliser avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Alors, est-ce qu'il serait tenté de revenir et prendre cette sélection nationale? C'est ça aussi le grand problème, puisque son passage est resté marqué par beaucoup de
problèmes.
De bons événements, notamment la troisième place à la Cannes, le Chan remporté au Rwanda, et également une très bonne place. Hein, on était dans les 50e place sur le plan mondial avec le classement FIFA. Pourra-t-il rentrer? Est-ce que les dirigeants de la fédération pourront-ils céder également à ses caprices? Puisque s'il doit rentrer, il est en position de force, il va exiger certains aménagements. Là encore, ça va encore se discuter. Surtout que nous sommes dans une année électorale au niveau de la fédération. Donc, c'est encore des informations à prendre avec beaucoup de pincettes. Mais aussi, il faudrait noter que la RDC a un faible pour les sorciers blancs. Même si Cooper est déçu, un sorcier blanc de la trappe de Gainsborough pourrait peut-être faire fléchir les dirigeants afin de lui octroyer un contrat en or, comme celui qu'a dit notre Hector Cooper, $55,000 le mois. Je crois que les dirigeants pourront passer à la comptabilité pour offrir un tel contrat à un sorcier blanc. Mais sinon, ici, les avis sont partagés entre Flora Ibenge et également un entraîneur noir comme Pitso Mosimane. En fait, on a besoin de quelqu'un qui viendra imposer, qui viendra remettre cette locomotive sur les rails. C'est vrai que Cooper nous a tellement déçus. On s'attendait à beaucoup plus venant de lui. Mais malheureusement, c'était trop. C'était des jeux, pratiquement un système de jeux archaïque, gars, il a inventé, le gars nous a...
Bon, ok. On a... Ouvrez le micro, il ne marche pas le micro. Alors, en tout cas, une chose est sûre, c'est que... On dira tout simplement à notre ami...
Marco.
Non, pas Marco, le coach de...
Ibengue,
de ne pas venir. On va continuer avec...
Sur les transferts.
Avec les transferts.
Sur les transferts, coach, on a du coup le jeune international malien Cheikh Doucouré, qui est évolué du côté de Lens, 22 ans, donc formé à l'AS Real Bamako, qui a fait quoi, quasiment 200 matchs avec Lens depuis 2018, et qui s'envole du côté de Crystal Palace. Il rejoint l'équipe de Patrick Vieira pour 30 millions d'euros. Il signe un contrat de 5 ans et il va en remplacement de Cheikh Kouyaté, qui est libre maintenant et qui, lui, est l'international sénégalais, champion d'Afrique, qui, lui, va sûrement s'engager du côté de la Turquie. On parle de Trabzonspor ou Galatasaray pour Cheikh Kouyaté.
Ok.
Autre news, autre transfert, on a vu tomber la news tout à l'heure. Un international sénégalais, Idrissa Ganagay, qui évolue du côté du PSG. Et il semblerait que ça se dessine aussi pour lui du côté de la Turquie, puisqu'il fait partie des joueurs dont le nouveau
directeur technique
Monsieur Campos et Antonio Henrique ne souhaitent pas. Donc peut-être une porte de départ pour Ganagay du côté de Galatasaray, de la Turquie, et pour un autre international sénégalais que j'apprécie beaucoup, qui est Abdou Diallo, qui évolue du côté de la défense du PSG. Lui, ce serait du côté du champion italien, le Milan AC.
Décidément, doyen, c'est quand même incroyable qu'on envoie tous les Sénégalais en Turquie.
Oui, mais en Turquie, c'est...
Mais est-ce qu'ils seront payés?
Oui, mais ça, c'est compliqué en Turquie et le niveau aussi en Turquie. Mais, et par rapport à Diallo, ça, c'est une chance parce qu'il va en Italie où le football a pris un niveau... qui ressemble au niveau d'antan.
Et une belle équipe de Milan aussi.
C'est ça. Et les autres qui suivent aussi, Naples et compagnie. Mm. Mais au niveau de la Turquie, c'est pas, pour Ganagay, ce n'est pas un bon choix pour lui. Mais il peut redémarrer aussi, hein, parce que c'est un très, très grand joueur. Donc, il y a d'autres clubs qui vont le suivre aussi.
Mm-hmm. En tout cas, si jamais Ganagay part, et je trouve que c'est une erreur, parce qu'il y a d'autres joueurs à faire partir avant lui, si on devait le faire bouger, j'espère qu'il retournera en Angleterre. J'espère qu'il retournera en Angleterre, puisque du côté d'Everton, avant de venir au PSG, on l'a vu briller, c'était un des meilleurs milieux chaque année. Donc si jamais, malheureusement, il quitte le PSG, j'espère qu'il retournera en Angleterre. Après, ouais. Galatasaray, il fait bon vivre. On joue la Ligue des Champions chaque année, donc ça peut être un challenge. Deux dernières news, coach, qui concernent deux entraîneurs. Fawzi Benzarti, l'actuel entraîneur d'Al Ahly Benghazi, du côté de la Libye, qui retourne du côté du Raja Casablanca, équipe qu'il avait déjà coachée en 2013-2014. Et avec laquelle il avait été notamment en finale de la Coupe du Monde des clubs face au Bayern Munich. Donc le coach tunisien Fawzi Benzarti qui va être le coach du Raja Casablanca.
Mmh. Ouais, mais en éliminant
l'Atlético Mineiro, tout à fait, de Ronaldinho.
Hein.
Et la dernière news, celle-ci concerne Monsieur Vahid Halilhodžić qui on entendait ces derniers jours que ça sentait pas bon pour lui du côté de la sélection marocaine. Qu'il allait devenir. On a vu notamment le président de la fédération le remettre en place. Et en tout cas, il a été, pour l'instant, confirmé dans ce poste. Après, on sait très bien en général, quand un président confirme son entraîneur, ça peut être à double tranchant. En tout cas,
non,
coach Vahid, pour l'instant.
Et sous condition de faire venir le Ziyech. Hein.
C'est ça, ça reste toujours ça. Donc.
Donc, si je comprends bien, on demande à Vahid Halilhodžić de ramener l'équipe du Maroc en Coupe du Monde.
C'est ce qu'il a fait, là.
Et qui plus est, d'imposer Ziyech.
C'est ça.
Que lui ne veut pas voir Ziyech.
C'est ça. On rappelle, il y avait deux joueurs hein, dont il ne voulait pas. C'était Mazraoui et Ziyech. Avec Mazraoui, ils se sont vus, ils se sont rencontrés, ils se sont expliqués. Le souci qu'il y avait entre les deux a été levé, il a été réintégré à la sélection parce que lui aussi a changé sa mentalité. En tout cas, du côté de Hakim Ziyech, on sait que le coach Vahid a été très clair dessus. Il a dit, hein, attention, c'est un grand joueur, hein, mais il a dit par contre dans l'état d'esprit,
je ne vois plus l'équipe du Maroc faire quelque chose.
Ah, la Coupe du Monde, on rappelle qu'ils sont qualifiés.
Ça, c'est moi qui vous le dis.
Ouais, mais comment tu peux faire la fine bouche par rapport à Ziyech?
Ouais, non, mais attendez.
Après, c'est un choix, d'entraîneur.
On a vu ici l'équipe de France. L'équipe de France où on a refusé certains joueurs, où Deschamps a refusé certains joueurs.
Pas pendant très longtemps, notamment. Mais
exactement. Oui. On a vu à l'équipe du Sénégal, Aliou Cissé refuser des joueurs parce que tout simplement, c'est une question d'état d'esprit. Si vous remarquez bien, ce sont des joueurs, ce sont des équipes avec lesquelles le gars, il tourne. Même si le gars est mauvais, il le reprend parce que c'est une question d'état d'esprit. Et vous allez voir, il va reprendre un gars comme l'avant-centre de l'équipe nationale qui marque beaucoup de buts de la tête parce qu'il a un état d'esprit exemplaire. Oui, il ne crée pas de problème.
Oui, mais ils vont à la Coupe du Monde, ils ne vont pas dans une colonie de vacances.
Mais c'est pas.
Oui, mais vous dites qu'ils sont heureux avec un gars.
Mais oui, mais ce qu'il faut comprendre, Doyen, tu as été dans le football, tu sais bien que tu ne peux pas prendre une mouche qui est atteint du qui a un peu de caca autour des ailes et qui va le propager un peu partout dans l'équipe. C'est ça le problème.
Je vois très bien l'idée. Et c'est ce que le coach Vaïd, en tout cas, a mis plusieurs fois en avant. Il a toujours dit que la qualité du joueur, rien à dire. Par contre, c'est vrai qu'il semblerait que dans l'état d'esprit, dans l'équipe, ils mettent un peu le souk.
Le bordel.
Le bordel et qui tire plutôt les gars vers le bas d'aller les chercher à l'eau. C'est le coach Vaïd, il est en place et il sait mieux que nous. Mais pour l'instant, il est confirmé.
Mais il n'y a qu'à voir dans son club d'origine. Il n'y a qu'à voir dans son club d'origine.
Ah oui,
est-ce que réellement Ziyech est un titulaire indiscutable?
Il l'était à l'Ajax, mais c'est vrai qu'à Chelsea, malheureusement,
Il s'est séparé de son agent. Ça faisait presque un petit peu plus de 10 ans avec qu'il travaillait avec lui. Décidément, il a voulu en fait effectivement se séparer de ses services de son agent. Donc il ne s'entendrait pas sur la partie financière. Alors, est-ce que Ziyech va rester du côté de Chelsea ou pas? On ne le sait pas. Il y a une information intéressante, coach Lamine, c'est un petit clin d'œil à Nasreddine Abdilla, notre correspondant pour les Comores. C'est Hakim Abdallah qui a 24 ans et qui quitte Grenoble pour Rodez, pour une Ligue 2. Latéral gauche, international comorien, il a signé un contrat de 3 ans. Voilà. C'était un petit clin d'œil pour Nasreddine Abdallah.
Mais nous, on s'occupe de la Ligue 1.
Non.
Ils ont fait une bonne carte, coach. Il a fait une bonne carte.
On va jusqu'au national.
Si tu nous entends, on t'embrasse.
On lui fait un coucou.
On t'embrasse. Alors, d'autres nouvelles concernant un peu...
Ouais, sur le continent, sur les news pour qui concernent le continent, là, sur les gros transferts, on a donné un peu les...
Mais je suis quand même un peu déçu parce que jusqu'à présent, je vous ai écouté, vous n'avez pas parlé...
Sadio Mané.
On peut en parler à nouveau encore.
Il ne faut pas être jaloux.
Non, du tout.
Jusqu'à présent, moi, je n'ai pas vu un joueur algérien.
Au Bayern.
Joueur africain de l'année, avec Mohamed Salah. C'est important de le souligner.
Mais il a fait un bon choix. Ce qu'il a fait comme choix, et dans un club aussi sérieux que le Bayern, mais c'est bravo à lui.
C'est Ribéry là d'ailleurs, c'est Franck Ribéry, je crois, que j'en ai vu il y a quelques jours justement à propos de Sadio Mané, où il disait c'est le meilleur choix possible qu'a fait le Bayern Munich.
Ouais.
Après à lui de tout casser, mais qu'il a le talent et surtout la tête pour réussir là-bas. Mais en termes de transfert, c'est même pas au niveau de l'Afrique, là, c'est au niveau du foot mondial.
Mais 40 millions, est-ce que c'est assez?
Non, c'est sous-coté. On avait eu Salim Layouni qui s'était exprimé à ce sujet la semaine dernière.
Un an de contrat,
40 millions, là, c'est pas respecté du tout.
Il lui restait un an de contrat à Liverpool.
Dans son rôle du top 5 mondial dans son
top 3, hein, peut-être même top 3.
Ouais.
On en parlait au Ballon d'Or avec Benzema, peut-être.
À son poste, Lamine, il y a quasiment pas mieux. Donc 40 millions du côté du Bayern, je trouve que c'est pas cher payé.
C'est le Bayern qui a fait une sacrée affaire. Sadio Mané aussi a fait une.
Il faut le rappeler, coach Lamine, le Sénégalais, donc Sadio Mané, l'Égyptien Mohamed Salah.
Quand on multiplie ça par le CFA, ça fait
beaucoup. Il figure parmi donc les 10 joueurs sélectionnés pour le titre de joueur africain de l'année 2022, selon la Confédération africaine de football, après les éditions 2020-2021, donc annulées. En raison de la pandémie, donc ça on l'avait dit. Le nom du lauréat 2022, il sera annoncé le 21 juillet lors d'une cérémonie à Rabat, au Maroc. On partagera l'information dans le Facebook et dans les réseaux donc de Tout Feu Tout Foot, l'émission Sport d'Africa Radio. Mohamed Salah lui a déjà remporté le prix en 2017-2018, alors que Sadio Mané lui a été distingué coach Lamine en 2019. Il a 30 ans, il a quitté le mois dernier effectivement Liverpool, on l'a dit, pour le Bayern Munich. Il fait figure de favori pour cette édition 2022 du meilleur joueur africain de l'année.
Favori, wait and see, parce que moi, la Confédération africaine de football, je ne leur fais pas du tout confiance.
Ouais, mais il est favori, il est champion d'Afrique.
Favori ne peut pas dire qu'il gagne. Hein.
Parce que si on regarde les 10 joueurs nommés, il y a Riyad Mahrez, donc pour l'Algérie et City, Karl Toko Ekambi, Cameroun, Lyon, Aboubakar, qui a fini meilleur buteur de la CAN, Cameroun et Al-Sar, Sébastien Haller, de côté de la Côte d'Ivoire, de l'Ajax et maintenant du Borussia Dortmund, puisqu'il a été transféré. Mo Salah, on l'a dit, Naby Keita, Achraf Hakimi, Edouard Mendy,
Sénégal,
Chelsea, Khalidou Koulibaly, Naples,
Sénégal,
et Sadio Mané.
Sénégal.
Ça fait beaucoup quand même. Ah, mais vous êtes champion d'Afrique,
non,
mais
c'est vrai. Je ne fais pas confiance.
Du coup, vont être un peu. Puisque c'est vrai que comme le Sénégal a été champion d'Afrique, Edouard Mendy, il a autant d'importance que Sadio Mané dans ce sacre-là. Ouais. Donc, il y a une belle liste en tout cas. Il y a des sacrés joueurs dont Sadio fait partie, mais il y a des sacrés joueurs.
Messieurs, il nous reste une dizaine de minutes et je voudrais qu'on termine avec quelque chose de super important, parce que vous m'avez tendu la perche, concernant cette Coupe d'Afrique des Nations. Le Sénégal est champion d'Afrique pour combien de temps?
Jusqu'à ce que la CAN se tienne.
Justement, la CAN se tient quand?
Jusqu'à janvier 2024.
Mais voilà. Ça fait combien de temps?
Parce que
c'est trop d'ailleurs, trop de temps.
Ça fait beaucoup, hein. C'est trop. C'est comme si vous aviez remporté la CAN deux fois.
Ouais. Bah, ils l'ont gagné qu'une fois, donc c'est bien, il fallait leur laisser un peu de temps.
Mais oui,
c'est vrai.
Alors, c'est juste pour vous faire parler de cette Coupe d'Afrique des Nations qui a été reportée, encore une fois. Et quand je vous avais dit qu'on est en train, au niveau de la Confédération africaine de football, de faire tout pour aller à 4 ans, vous étiez tous scandalisés. Mais aujourd'hui, on se rend compte que plus ça va, plus la Confédération africaine de football et la FIFA sont en train de magouiller pour arriver à une Coupe d'Afrique des Nations tous les 4 ans.
Oui, c'est le mot. Parce que l'actuel président de la FIFA était président de l'UEFA. Chaque compétition, chaque tournoi en Afrique gêne l'UEFA. C'est-à-dire que quand on joue en Afrique, à chaque fois qu'on joue en Afrique, les Européens pleurent ici. Et eux, on n'est pas les meilleurs, hein, ça, ils vont le dire à chaque fois. Mais à chaque fois qu'on part jouer, ils pleurent. Donc, soit on est mauvais, on part jouer, ça ne gêne personne. Dès que nos joueurs partent, tout le monde pleure ici. Donc on veut tout faire pour remettre la CAN tous les 4 ans. Mais ça, ce sont des fossoyeurs du football africain. Si jamais on joue tous les 4 ans, le football africain est mort.
Mais c'est ce qui est en train d'être fait, Christian.
Malheureusement, on avait parlé quand c'était M. Motsepe qui avait été élu, si on peut parler d'une élection, puisque c'était plus un accord, plébiscite de M. Motsepe. Et on sait qu'il marchait un peu aussi dans la main de Gianni Infantino. Et j'avais quand même un peu d'espoir, mais on voit, entre avec la Super League qui va avoir lieu à partir de août 2023, qui a été confirmée au niveau du foot africain. J'espère qu'on n'y arrivera pas, mais c'est vrai que tout doucement, dans les choix qu'on voit, quand on met une CAN au mois de juin et juillet en Côte d'Ivoire, on sait très bien que c'est pas, il y a peu de chances qu'elle se tienne. Donc malheureusement, on glisse peut-être tout droit vers ça, mais gardons espoir et ça le fera comme ça. Mais pour la particularité du football africain et pour continuer de toujours l'accompagner, de le faire grandir, c'est important que la CAN reste tous les 2 ans aux grandes dames des clubs européens, mais ça, c'est leur problème.
Alors, on va revenir pour les raisons qui ont été évoquées. Christian Sango, vous regarderez ça. Mais on va aller voir Marco Momo aussi, pour lui demander son avis concernant. Et comment c'est perçu du côté de la RDC? Même si vous, au niveau de la RDC, vous n'êtes jamais qualifié. Ça fait tellement longtemps que vous n'êtes pas qualifié qu'on est en train de se poser.
Faut vous défendre, Marco Momo.
Est-ce qu'il m'a entendu, Marco Momo?
Effectivement, je disais que par rapport à cette Coupe d'Afrique qui est reportée pour le mois de
janvier. Pour nous, on pense que en fait, la Confédération africaine de football est là pour subir des décisions qui viennent peut-être d'ailleurs, jusqu'à se demander si elle n'est pas sous tutelle de la FIFA. Puisque certaines décisions doivent être tenues par rapport aux contraintes ou encore aux réalités africaines. L'Afrique est un continent à part, il ne faudrait pas copier les modèles européens et essayer de l'imposer plutôt en Afrique. On est habitué à avoir cette CAN toutes les deux années, et ce sont toujours les Européens qui nous ont demandé à ce que cette CAN puisse jouer au mois entre juin et juillet. Aujourd'hui, si ils sont encore le premier à faire revenir cette CAN au mois de juin, plutôt au mois de janvier, c'est se demander si on ne veut pas quelque chose et son contraire en même temps. Les réalités africaines nous demandent d'avoir cette CAN au mois de janvier et février. Il faudrait soit qu'on définisse cette CAN aura lieu entre janvier et février, tantôt l'avoir au mois de juillet, tantôt l'avoir au mois de janvier. Et je vous assure que même les championnats nationaux auront des programmes perturbés. Puisque il y a des joueurs qui iront, peut-être pendant ce temps-là, on était en train de se préparer pour la deuxième partie du championnat, des joueurs qui iront jouer la CAN, ou encore pendant qu'on voudra renvoyer les joueurs en vacances, ils devront aller répondre en sélection. Le tout-puissant Mazembe en RDC en paye généralement les frais, puisqu'il y a des internationaux, des Zambiens, des Ivoiriens qui devront partir, et il y a des joueurs qui sont appelés chez les Léopards. Souvent, c'est un club qui est décimé quand il y a des championnats comme ça, de compétition nationale ou encore de compétition internationale ou encore sur le plan continental. Du coup, il faudrait bien définir les choses comme ça. Tous les clubs se préparent en fonction d'un calendrier bien établi. On ne se réveille pas un matin pour déplacer ou encore
mais justement,
un championnat. Ça,
justement, Marco, quelles sont les raisons qui ont été comprises en Afrique par rapport à ce report? D'après vous, qu'est-ce que les gens disent? Christian Chango,
vas-y Marco, vas-y.
On parle de conditions climatiques qui ne permettraient pas à ce que le championnat ou encore la Coupe d'Afrique
puisse jouer
entre juin et juillet. On parle d'une pluie abondante pendant cette période, telle qu'on l'a vu avec le Cameroun. Mais est-ce que chaque fois on va commencer à décaler le championnat? Non. Il faudrait qu'on tienne compte de tout ça. Il faudrait qu'on s'adapte aussi au climat. Puisque quand vous dites qu'il faudrait déplacer en RDC, par exemple, si le championnat doit se jouer. Doit se jouer dans la partie équatoriale. Il y a encore une partie tropicale. Qu'est-ce que vous allez faire?
On
il y a un groupe qui va jouer au mois de janvier et un autre groupe qui va jouer au mois de juin.
Okay.
Vous voyez, il y a toutes ces réalités. Il faut s'adapter à la réalité.
La réalité
qui est la nôtre. Il faudrait jouer au mois de juin. Ok, on adopte le mois de juin.
D'accord.
On a commencé des raisons liées au climat. C'est vrai, c'est bien, d'accord. Mais quelles sont les solutions, les pistes de solutions pour remédier?
D'accord.
On ne va pas commencer à décaler comme on
le Diallo, vous êtes avec nous. Bonsoir.
Bonsoir l'équipe. Bonsoir tout le monde.
Salut. Alors,
bonsoir Diallo.
Moi, j'ai juste une question, mais je ne sais pas si vous avez déjà en parlé. C'est par rapport à la Platini. Est-ce que la Platini a une chance de revenir encore pour prendre sa place?
Sepp Blatter et Platini ont été, d'après nos informations, ils ont été relaxés.
Oui.
Donc par la justice suisse, est-ce qu'ils ont, ça c'est une autre question, est-ce qu'ils ont la possibilité de revenir dans le monde du football? Ça c'est une autre question. Et voilà.
Donc, pourquoi pas? Mais le souci c'est que pour Blatter, je ne pense pas, parce que quand il est un peu âgé, mais pour Platini, il est encore jeune, ouais. Il peut se refaire.
Oui.
Et comme connaissant Platini, enfin je ne le connais pas personnellement, mais c'est un revanchard, il va vouloir prouver beaucoup de choses, hein, Diallo.
Ouais, mais j'ai l'impression qu'on est déjà innocenté, simplement parce que par rapport à ce qui est venu après, c'est pire que ce qu'il y avait avant, peut-être.
Après, en tout cas, pour Platini, quand on reprend un peu toutes ses interviews depuis le début de cette affaire, de ses condamnations, tout ça, lui, la seule personne qu'il a toujours chargée, au début qu'il ne nommait pas et qu'il nomme maintenant, c'est le président actuel de la FIFA.
Exactement. Vous avez une autre question?
Non, bon, c'est par rapport à Mané, hein, je souhaite bonne chance, on veut Ballon d'Or en cette fois-ci.
Ben oui, bien sûr, vous avez raison.
Même si Karim, voilà, entre guillemets, mais on peut faire Mané.
Merci beaucoup Diallo, merci d'être venu sur la radio africaine. Encore quelques informations sur... il nous reste 5 minutes.
Joe Haribo, Christian ? Joe Haribo, le Nigérian.
Oui, qui est signé, qui était parti des Rangers.
Exactement.
C'est ça qu'on a vu jouer en Europa League notamment. Des Rangers et qui
signe 4 ans
voilà, en Angleterre.
Ouais, pour les Saints. Il rejoint Southampton, donc buteur en finale de Ligue Europa avec les Glasgow Rangers. Donc l'international africain que l'on aime, le Nigérian bien sûr, a signé un contrat effectivement 4 ans, Christian, ouais, en faveur des Saints. Le montant de l'opération, il est estimé à environ, coach Lamine, à 7,1 millions d'euros.
Et lui, justement, lui aussi, il était pisté par Crystal Palace. Par Crystal Palace, donc par Patrick Vieira, qui voulait, et lui, et Charles Doucouré, ouais, qu'il a récupéré de Lens. Donc c'était deux joueurs qu'il avait vus pour renouveler le milieu de terrain, notamment, comme on le disait tout à l'heure, comme Cherou Kouyaté, qui est l'équipe.
Et sous-côté, hein. Ouais. Yeah.
C'est une très bonne pioche, parce que vu ce qu'il a fait pour le Rangers jusqu'en finale, il en est pour quelque chose. Donc bravo à lui, un grand attaquant.
Alors messieurs, on va faire un tour de table, remercier tout le monde bien sûr, c'était la dernière aujourd'hui, la dernière de la saison, et puis dire merci à tous ceux qui ont participé à cette émission de Tout Feu Tout Foot. Ouais. Merci à, bien sûr, à Hélène qui nous a accompagnés durant toute la saison, merci à Maxime qui nous a aidés aussi par rapport à la réalisation, merci à toi Christian Chango.
Coach, merci à tout l'équipe, tout le plateau, Valentin Blanc, tout le monde, tous nos correspondants, exactement, auditrices, auditeurs, grand, grand, grand. Merci à vous l'équipe, portez-vous bien.
Doyen Willy, merci, merci de
merci
par tes jugements. Même si quelquefois tu exagères quand même, parce que tu es toujours en train de dire que les gens sont des touristes, les entraîneurs sont des touristes.
Parce qu'il y a tout, monsieur Ayatou est parti.
Je veux dire que les sorciers sont les joueurs africains, ce ne sont pas les touristes qui sont les sorciers. Ouais. C'est tout ce que je dis, je ne mens pas.
Ok. Hakim, merci. Merci d'avoir perdu la Coupe d'Afrique des Nations au profit du Sénégal.
On l'a offerte.
Mais non,
on l'a offerte cette Coupe d'Afrique. On l'a gagnée en 2019. Non, on l'a offerte en
2020.
On l'a offerte pour le tour suivant. En tout cas, moi, je tiens à te remercier, coach Lamine, à remercier toute l'équipe de Tout Feu Tout Foot, Christian, Willy, Hélène, Valentin, Hugo, Simon, Maxime,
toute l'équipe
technique.
Non, et puis on
n'oublie pas aussi le Marco Momo, Jocelyne Senaou, Adama Sourabier, bien sûr, pour cette belle saison, avec aussi Dipita. Donc on pense à tous les correspondants. Bien sûr, hommage à Patrick Lupica qui nous a quittés, Choukri Alaoui, à qui l'on pense aussi, qui nous a quittés, qui était notre correspondant du côté du Maroc. Et un grand coucou, bien évidemment, aux auditeurs. Salim Layouni, la cerise sur le gâteau. On lui fait un gros coucou, Salim, et on lui remercie aussi pour cette belle saison 2021-2022, en espérant vous revoir très très vite.
Oui, bien sûr.
Coach Lamine.
Et puis, qui on doit remercier? Qui on n'a pas remercié? Bon, Hélène, c'est pas la peine.
Nos auditeurs,
on fait un coucou à nos auditeurs.
Bien sûr. Alors, on va réécouter notre jingle préféré, hein, celui qu'on a passé pendant quelques dizaines d'années. Hein. Et donc, c'est parti. Bien rythmé, là. Et puis, comme ça, on va danser pour la fin. Allez, ciao.
Tout foot, l'émission 100% foot sur Africa Radio.